Aurora, si je ne me trompe, je l'ai écrit en 1928. C'est-à-dire à une époque où même je ne voyais plus beaucoup les surréalistes, mais en principe, j'étais encore surréaliste. Je n'avais pas rompu avec eux. Et c'est le récit, très transposé, bien sûr, et puis il y a des parties qui sont presque des textes résultant de l'écriture automatique, c'est au fond le récit d'un voyage que j'avais fait en Égypte et en Grèce. Un moment aussi où j'en avais eu assez d'être à Paris. Enfin, l'atmosphère littéraire artistique parisienne m'était désagréable. Et j'avais fait ce voyage pour me changer les idées, comme on dit. Il y a quelques récits de rêve qui sont incorporés à Aurora. Mais c'est plutôt un roman mythologique. C'est une espèce de mythe de mon propre personnage que j'ai essayé d'écrire. C'est en un sens mon premier ouvrage autobiographique. Une autobiographie, bien sûr, qui a très peu d'incidence véritablement historique, mais qui fait un peu le trait d'union entre les poèmes lyriques où on dit « je », que j'écrivais à l'origine, et puis les essais dûment autobiographiques que j'ai écrit ensuite.
Un dandy sans panache, aux manières plus timides qu'insolentes. Un vivant que seule l'idée qu'elle finira empêche de goûter la vie. Un athée adorateur de la lune.
France Culture, pour Michel Léris, Signe de vie.
Oh!
J'ai toujours aimé que le Don Juan de Da Ponte, Mozart, fût intitulé un dramma giocoso. Je ne crois pas que la grandeur puisse gagner quoi que ce soit à se donner pour la grandeur. Bien au contraire, celui qui va le plus loin et le plus haut est celui qui, pour marcher ou grimper, ne s'est pas alourdi de grosses bottes. Si Georges Bataille a souvent invoqué l'enjouement nietzschéen, n'est-ce pas parce qu'il sait que la grandeur ne saurait s'afficher comme telle sans s'imposer une mesure de ce fait même?
Toute sa vie, il a vu de l'humour. Il se rendait très bien compte de la position quelque peu insolite qu'il avait. Il était loin d'être un utopiste naïf. Il pouvait se lancer dans des idées très paradoxales, mais enfin, il se rendait parfaitement compte du paradoxe. Je me rappelle, par exemple, à l'époque de Contre-attaque, quand il s'était réconcilié avec Breton, et qu'ils avaient fondé ce groupe antifasciste dans les années de quoi, peu après 34, eh bien, à l'époque de Contre-attaque, je ne crois pas que c'est paru dans le journal, je ne crois pas qu'il l'ait publié par écrit, mais moi, il me disait assez couramment que ce qu'il faudrait faire pour trouver un mythe et un rite à la gauche, ce serait de fêter à la place de la Concorde la décollation de Louis XVI. Mais c'était une idée qui me paraissait enfin totalement farfelue. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas adhéré à Contre-attaque. Mais lui, il croyait sur le plan du... Il se rendait bien compte que c'était un paradoxe, que c'était une idée très osée, téméraire. Mais enfin, il y croyait. Il y croyait tout en se rendant compte de ce que ça avait de peu acceptable, trop utopique.
Est-ce vraiment jouer sur les mots que définir ainsi le parcours effectué par Georges Bataille durant les 30 et quelques années d'une vie littéraire encore en gestation lorsque je l'ai connu? Après avoir été l'homme impossible que fascinait ce qu'il pouvait découvrir de plus inacceptable et qui fit document en le défaisant, il élargit ses vues, selon sa vieille idée de dépasser le nom de l'enfant qui trépigne, et, sachant qu'un homme n'en est totalement un que s'il cherche sa mesure dans cette démesure, se fit l'homme de l'impossible, avide d'atteindre le point où, dans le vertige dionysiaque, haut et bas se confondent, et où la distance s'abolit entre le tout et le rien.
Quand Bataille a parlé du non-savoir, en somme comme comble du savoir, ça n'est pas du tout dans un sens obscurantiste. Ça vient après, ça vient au bout. C'est-à-dire, c'est le savoir qui se réfléchit sur lui-même et qui se rend compte qu'il n'est pas un savoir, qu'il ne sait rien.
Peu après être entré en rapport avec lui, j'introduisis Bataille dans le Cénacle qui, en art et en poésie, était mon milieu nourricier depuis quelques 2 ans. Ce petit groupe avait pour point de ralliement, 45 rue Blomet, l'atelier, très dostoïevskien dans son délabrement, du peintre André Masson, auteur déjà de merveilleux dessins rehaussés où le déchaînement sexuel évoquait un retour au commencement du monde et qui serait le grand illustrateur de Bataille, tant avec Histoire de l'œil qu'avec des textes où convergent érotisme, lyrisme cosmogonique et philosophie du sacré.
Georges Bataille m'a été amené en 1925 dans mon atelier, par Michel Léris.
André Masson.
Et la première chose que j'ai demandé à Bataille, qu'est-ce que vous avez pensé de Dada? Il m'a répondu, raide comme balle, pas assez idiot. Et ça, c'est une réponse de moine zen. Ça signale très bien l'état d'esprit de Bataille, c'est-à-dire extrémiste. Il disait ça pas du tout pour rire, hein. Il disait ça parce que c'est une constatation. Ça voulait être idiot, mais ça n'était pas assez. J'avais illustré un livre érotique d'Aragon. Et l'éditeur m'a dit que vous devriez connaître d'autres poètes, parce que j'en ai assez de... Toujours répéter le même Pierre-Louis, etc. Je voudrais que ce soit un de vos amis qui m'apporte un livre érotique. Alors je lui dis, mais je connais un garçon qui s'appelle Bataille et qui parle très bien de l'érotisme, de manière très savante. Eh bien, demandez-lui s'il voulait faire un livre pour moi. J'ai dit à Bataille, qui m'a dit, dans 15 jours, vous l'aurez, il est dans ma tête. À ce moment-là, il est à la Bibliothèque nationale, il a écrit l'histoire de l'œil en 15 jours sur les feuilles roses de la Bibliothèque nationale. Je l'ai montré à mon éditeur, qui était un homme très extrêmement intelligent. Et il l'a pris tout de suite, il m'a dit, vous ferez des lithographies. Alors j'ai donc été un collaborateur de Bataille presque immédiatement après avoir fait sa connaissance. J'ai fait d'autres livres avec Bataille. Le dernier que j'ai fait s'appelle Le Mort. Ce n'est pas célèbre, mais moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Vous ne connaissez pas.
Ça devait se passer en 1922 ou 1923. Et Marc Jacob s'était retiré, comme chacun sait, au monastère de Saint-Benoît-sur-Loire, chez les Bénédictins. Une fois, je suis allé lui rendre visite à ce monastère, et là, j'ai rencontré deux garçons de mon âge, qui étaient venus le voir eux aussi, dont l'un était Jean Dubuffet, et l'autre Roland Toil. Nous avons bien sûr parlé beaucoup, tous ensemble, et je n'ai pas beaucoup sympathisé avec Dubuffet, je dois dire, mais énormément sympathisé avec Toil. Et Dubuffet restant à Saint-Benoît, nous sommes repartis le soir, Toil et moi, pour Paris. Et nous avons parlé, comme on peut parler quand on a quelques années, avec enthousiasme et de poésie, etc. Et Toil m'a dit, ah, il faut absolument que vous connaissiez mon ami André Masson. C'est un peintre, je me rappelle qu'il m'avait dit entre autres choses, il fait des sexes qui sont comme des fleurs. Il faut absolument que vous fassiez sa connaissance. Bref, le lendemain ou le surlendemain, enfin très dans les jours immédiatement suivants, il m'a amené 45 rue Blomet, où Masson avait alors son atelier. Et en effet, j'ai été ébloui par ce qu'il faisait à cette époque-là. Masson était quelqu'un qui devait avoir à peu près 4 ans de plus que moi. Moi, j'étais extrêmement malheureux, parce que Marc Jacob, qui d'ailleurs n'avait pas tort, était d'une sévérité inouïe sur les essais de poèmes que je faisais à cette époque. Mais Masson, lui, qui aurait pu être, non pas mon père comme Marc Jacob, mais disons mon frère aîné, lui m'a fait tout de suite confiance. M'a tout de suite encouragé à travailler. J'ai pris mes habitudes rue Blomet. Et je crois que tous mes premiers écrits sont extrêmement marqués par l'influence de la rue Blomet et par tout ce que m'avait dit Masson, qui est devenu un peu mon maître à penser, qui m'a appris toutes sortes de choses. C'est lui qui m'a fait connaître Nietzsche, par exemple, et bien d'autres choses importantes. Je lui dois absolument mes débuts. Je ne dirais pas tout, on ne doit jamais tout à quelqu'un, mais enfin immensément. Par exemple, je crois que si ma première série de poèmes publiée, qui est intitulée « Désert de main », ben, le titre m'est venu parce qu'il y avait, beaucoup de mains humaines dans les tableaux de Masson de cette époque. Je pense, par exemple, aux assez nombreux tableaux de joueurs de cartes ou d'hommes attablés, superbes tableaux qui datent pour lui de cette époque-là. Les mains étaient très importantes. Et alors, dans les poèmes même, que je ne m'aviserai pas de vous les citer, d'ailleurs, je ne me les rappelle pas, il y a toutes sortes d'éléments qui interviennent, qui sont empruntés directement à la peinture de Masson de cette époque-là. Et alors même le ton que je cherchais, je peux dire que c'était influencé par lui, parce qu'à cette époque, il faisait une peinture extrêmement légère et transparente. Et moi, j'aurais voulu arriver à une transparence du vocabulaire, transparence du langage, à peu près équivalente à la sienne. Ce que je sais, c'est que mon premier livre publié, qui était à la Galerie Simon, dont Daniel Henri Canvet d'ailleurs était le directeur, ça s'appelle Simulacre. C'est des poèmes que j'ai fait littéralement dans l'atelier de Masson. C'est illustré de lithographies de lui, et j'ai tenu à ce que le titre, c'est pas un livre de Michel Léris illustré par André Masson, c'est intitulé « Michel Léris et André Masson, simulacre ». Tellement je sentais voisins nos travaux, les uns plastiques, les autres écrits. Il y avait de constantes métamorphoses. Toujours faire s'interpénétrer les choses et les montrer comme se métamorphosant. C'est d'ailleurs le côté surréaliste de Masson, puisqu'il a été très surréaliste. C'est que, si vous voulez, une chose en est une autre. Une chose n'est jamais qu'elle-même. Elle est aussi autre chose. Et par exemple, il représentera, par exemple, un verre, ben, ce ne sera pas un verre, mais la transparence même. Ce qu'on voit, tout ce qu'on peut voir au travers de ce verre, etc. Une grenade ouverte, dans ces tableaux anciens, il y avait souvent la grenade ouverte qui intervenait. Mais la grenade ouverte, ce ne sera pas simplement une grenade, ce sera en même temps un sexe féminin, une blessure en fait.
Rien ne me paraît ressembler autant à un bordel qu'à un musée. On y trouve le même côté louche et le même côté pétrifié. Dans l'un, les Vénus, les Judith, les Suzanne, les Junon, les Lucrèce, les Salomé et autres héroïnes en belles images figées. Dans l'autre, des femmes vivantes, vêtues de leur parure traditionnelle, avec leurs gestes, leurs locutions, leur usage tout à fait stéréotypé. Dans l'un et l'autre endroit, on est, d'une certaine manière, sous le signe de l'archéologie. Et si j'ai aimé longtemps le bordel, c'est parce qu'il participe lui aussi de l'Antiquité, en raison de son côté marché d'esclaves, prostitution rituelle.
Moi, j'ai fréquenté les burlesques, vous savez que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, aux États-Unis. Je trouvais que c'était merveilleux. Et à ce salaud de la Guardia qui les a fait fermer quelque temps après que j'étais arrivé, j'étais hors de moi.
André Masson.
Je trouvais ce spectacle très beau. Je ne vais plus à la messe, n'est-ce pas ? J'étais quand j'étais très jeune, parce qu'en fond, on m'y forçait un petit peu. Enfin, le sentiment, ma grand-mère était pieuse, je ne pouvais pas lui faire de peine. Je n'ai pas été à la messe plus, après ma première communion, tu vois. Bah, ça, c'est un spectacle, c'est presque c'est du sacré. Comment voulez-vous expliquer ça aux gens, hein? Que pour moi, ça remplace le sacré conventionnel, hein? Alors, pas seulement ça, mais... Hein? La cérémonie du striptease, pour moi, fait que ça ne sera jamais obscène. Voilà. C'est comme les courses de taureaux, elles sont obscènes quand elles sont ratées, non? C'est beaucoup plus dégoûtant que d'aller à la Villette, comme j'allais autrefois pour voir tuer les animaux, ou à Vaugirard pour voir comment on écarissait les chevaux, hein? Ah, c'est pas mal de télescoper, d'ailleurs on l'a fait, Bataille et moi, souvent, hein? Et avec les risques aussi. L'érotisme et la tauromachie.
Rêve tauromachique. À travers le miroir. Le piège dans le miroir. Piège à soleil. Soleil furieux. Ruissellement. Combat et métamorphose. La métamorphose des amants.
Ah ben, ça, bien sûr, il y a un élément important, l'érotisme qui entre dans la tauromachie. Je crois d'ailleurs que ça ne fait pas mal. Me mettre à la place d'un matador, mais je crois que certains matadors n'hésiteraient pas à le dire, que l'action devant le taureau, une espèce de... Enfin, c'est très ambigu, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que le taureau, pour moi, le matador, c'est tout de même avant tout une bête qui peut l'encorner, mais enfin, qu'il y a une sorte de... presque une relation, ce serait peut-être beaucoup dire de parler de relation amoureuse. C'est une relation d'intimité, d'intimité proche de l'érotisme.
Et puis c'est peut-être aussi l'imminence de la mort qui rend cette intimité si...
Bien sûr, C'est ça qui donne le caractère tragique. Et je crois que, enfin, l'érotisme lui-même, j'entends par érotisme en prenant ça au sens, au grand sens, au sens plein, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec la pornographie, avec l'érotisme, on est tout près de la tragédie. Et c'est ça ce que Masson a admirablement senti.
Espagne, 1934-1936. Une tête de taureau, au cou de laquelle plonge, non loin d'une banderille aux papillotes légères comme des flammes, et proche l'œil furieux sous le chaton des cornes sertissant un crâne. La verticalité péremptoire d'une épée. L'on peut croire qu'en marquant d'un si tragique signe inaugural le carton de ses invitations, André Masson a voulu condenser, comme en des armoiries, tout ce que l'Espagne fut pour lui de brûlant durant ces deux dernières années, et tout ce qu'elle souffre aujourd'hui, sous le glaive des soudards qui ne parviennent que très malaisément à les stocker. Mascarade d'insectes, crise enrhumée de coqs, terre d'un rouge sanguin où le feu couve et s'exalte parfois jusqu'à d'effectifs incendies, Don Quichotte pourfendant d'incertaines créatures, miasmes ou concrétions bouffonnes, puis veillant lance au poing, maigre comme la longue écharde qui ne cesse de se dresser au centre de leur cœur, corps humains déchiquetés par des légionnaires romains, délire cosmique illuminant les nuits autour du monastère de Montserrat, spectre d'âne errant sous les murs d'Avila, curé que de louches pensées poursuivent, changés en pinces de homard, hystérie des cadavres qui prétendent opposer par la force un veto à ce qui n'est que le flux naturel de la vie. Tout ce monde fourmillant, blessé, vorace, désirant, entrechoqué, se résume dans la beauté à la fois tournoyante et sereine des souveraines tauromachies. Gravitation hostile de l'homme et de la bête. Meurtre en même temps que fusion. Géométrie dont les théorèmes n'admettent que des preuves actives par le fer et le sang. Coïncidence d'une suave arabesque avec un bloc obscur de frénésie, la corrida, fête sacrificielle et art majeur, illustre bien le duel de l'artiste contre le monde extérieur, quand, arrachant sa propre peau et se tenant debout devant l'œuvre à créer en position d'écorché, il tente de dompter la nature en la prenant au pli palpitant de cette cape. Et nouveau Damoclès essaie d'abolir la mort en se faisant une arme scintillante de la menace qui pesait depuis toujours sur lui. Par le truchement des courses de taureaux, André Masson nous mène au point crucial de l'art. Guerre inexpiable du créateur avec son œuvre, du créateur avec lui-même et du sujet avec l'objet. Dichotomie féconde, joute sanglante dans laquelle l'individu entier est engagé. Ultime chance pour l'homme, s'il consent à y risquer jusqu'à ses os, de donner corps à un sacré.
Parti à la recherche de soi, Michel Leiris va traverser l'Afrique fantôme à la rencontre d'autres hommes, d'autres langues et d'autres démons. Cette aventure, qui va lui ouvrir le domaine de l'ethnologie, ne l'éloigne pas vraiment de son propre centre. Comme Alfred Métraux, ethnographe-poète, Michel Leiris ne cesse de croiser les chemins de l'observation, de la science et ceux de la découverte de soi. Car, ainsi que l'affirme Sartre, tout homme est tout l'homme. Jean Jamin.
Il faut insister sur une chose. En 1929, et ça c'est très important, en même temps que le musée d'ethnographie est réorganisé, disons, sous l'impulsion de Rivet et de Rivière, se crée une revue dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Documents, une revue qui est dirigée par Georges Bataille. Et c'est grâce à cette revue où collaborent des surréalistes dissidents, comme Desnos, comme Limbourg, comme Masson. C'est grâce à cette revue que Michel Leiris se met en relation avec à la fois Marcel Griol, qui était secrétaire de rédaction de la revue, et c'est grâce à cela qu'il trouve en quelque sorte sa vocation professionnelle, puisque jusqu'alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était très hésitant. et se rendait bien compte qu'il fallait quand même qu'il ait un métier. Et puis se trouve cette occasion de partir. Il part, comme vous le savez, non pas en tant qu'ethnologue, mais en tant que secrétaire archiviste. Donc il est là pour tenir, si je puis dire, la mémoire de la mission Dakar Djibouti.
A pu nous unir, je garde malgré ma blessure l'ineffaçable souvenir. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève qui ne veut pas finir. Toute la tendresse des beaux jours d'ivresse que l'on veut retenir. Un soir tu as pu te reprendre, tout briser, tout anéantir. Mais pour moi qui ne sais comprendre qu'on peut mentir, un souvenir. C'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève, qui ne veut pas finir. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève, qui ne veut pas finir. Thank you.